C'est parti pour une nouvelle chronique naturaliste de la Nichoule, une chronique in situ. On est en début de soirée, il est à peu près 20h30, 20h45. Je suis toujours en compagnie de François qui est bénévole de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité. Bonjour François.
Bonjour Radio Royan, Vercors.
Et il y a également en notre compagnie un autre ingénieur technique, Yamoussa. Bonjour Yamoussa.
Bonjour.
Et ici c'est Charlène au micro pour Radio Royan Vercors. Et donc aujourd'hui on vous propose une chronique naturaliste in situ dans la nature. Nous sommes à Auriol, juste derrière la centrale hydroélectrique d'Auriol. François, est-ce que tu peux nous décrire un peu où on est, dans quel milieu on se trouve?
On est dans un milieu préservé, qui est super intéressant. On est au fond d'une petite vallée, donc c'est la vallée de la Lyonne en fait. On est au bord de la rivière, donc il y a une rue piscine, il y a des arbres et des végétaux au bord de la rivière. Mais quand on lève les yeux, donc on voit des falaises, donc on est au pied des falaises, dans la rivière. La végétation est très verte, il y a beaucoup plus cette année, hein, donc c'est aussi pour ça. On est aussi dans un pré, donc il y a l'agriculture qui joue son rôle aussi. Donc le pré, c'est un milieu ouvert, les bois, c'est un milieu exceptionnel, les forêts, c'est un milieu exceptionnel. Les falaises, c'est aussi des milieux exceptionnels, mais tout ça, c'est très fragile aussi, surtout les, par exemple les falaises, on dirait que c'est quelque chose qu'on peut pas déranger, alors qu'en fait, si on va un peu dessus et autres, c'est des milieux qui sont très sensibles. La forêt, elle, est plus résiliente. Et puis la rivière, donc la Lyonne, qui est un milieu naturel. Donc là, il y a de l'eau, ça coule pas mal, mais dès qu'il fait un peu sec, il pleut pas pendant un moment, la rivière sèche. Et voilà, on est dans un milieu préservé qui est vraiment très, très intéressant. Et donc la faune et la flore est vraiment exceptionnelle et à observer, à protéger.
Et à écouter, parce que sur le chemin, on entend le bruit de l'eau juste à côté, on entend au loin quelques oiseaux. On venait d'entendre un petit troglodyte mignon juste avant, un cincle plongeur, ça c'est toi qui l'a dégoté, et une grive musicienne. Alors qu'est-ce qu'ils nous racontent ces oiseaux du milieu ?
Eh bien, qui sont le milieu est préservé, le milieu est naturel, et donc les animaux sont là. Donc ce qu'on entend, on entend les oiseaux parce qu'ils chantent, mais après il y a tous les insectes, il y a tous les vers de terre, il y a toute la faune, la microfaune et tout ça qui est là, mais qu'on n'entend pas et qu'on voit pas. Donc ce qu'on peut voir, c'est la flore, par contre, hein, qui les arbres sont vraiment très très grands. Et oui, le cinq plongeur, lui, il profite de la rivière, et donc il a ses chants là, il doit avoir fini de faire sa première nichée en fait. Et voilà, la grive musicienne, elle fait ses derniers chants parce que bientôt elle va s'arrêter. Là, on est mi-avril. On est mi-juin même carrément.
Et donc, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler du chant de la grive musicienne qui est très particulier quand même?
Les chants de la grive musicienne, oui, c'est assez exceptionnel. C'est la grive musicienne imite donc tous les autres oiseaux en 3-4 petites strophes et à chaque fois elle change. Et donc elle imite tout ce qu'elle entend et elle invente certainement aussi d'autres chants. Et elle chante en haut des arbres de manière très forte. C'est une grive musicienne, c'est gros comme un merle. Et elle a une puissance qui est vraiment étonnante. Et donc, comme ça, elle fait des dizaines de chants différents. Et voilà, donc elle enchante les forêts. Et il y a un autre oiseau qui imite énormément beaucoup d'oiseaux, y compris les oiseaux d'Afrique. C'est la rousserolle verderolle, qui n'y a pas ici. Pour ça, il faut monter à Saint-Agnan. On est à la limite sud, en fait, de l'aire de répartition européenne. Et donc, c'est plutôt des zones humides d'altitude. Et donc, c'est un oiseau qui est petit, qui chante beaucoup moins fort, mais il chante beaucoup plus vite, en fait. Cet oiseau, il imite aussi tout ce qu'il entend, y compris des chants d'Afrique qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant de les écouter, de les observer. C'est très dur parce que c'est dans des endroits fourrés, très, très denses, qu'on les voit très peu, en fait. Mais le chant, c'est vraiment très intéressant, donc il y a vraiment de quoi satisfaire la curiosité du naturaliste.
Et justement, la grive musicienne, moi je la trouve parfois un peu dure à détecter parce que comme elle imite plein d'oiseaux, voilà. Il faut vraiment tendre l'oreille et s'y habituer. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fonction des forêts, elle ne va pas imiter les mêmes oiseaux.
Ah bah, elles s'adaptent là où elles sont. Donc quand un oiseau, quand tu ne sais pas ce que c'est, tu peux dire que c'est une grive musicienne. Ça a une chance de l'être. Mais c'est quand même très particulier parce que ça fait 4 strophes et puis après ça change et puis après ça change. Donc on arrive assez vite à... Voilà, c'est un indice qui est très précis en fait. Et quand on bivouaque, parce que vive le bivouac, souvent c'est le dernier qui chante, l'oiseau. C'est la grive musicienne. Ils font aussi un peu le combat avec le rouge-gorge, qui est des fois le dernier à chanter. Et les derniers qui chantent, c'est les premiers qui rechantent le matin aussi, voilà, avec les mères. Mais le premier, c'est souvent la grive musicienne et les rouges-gorges, en fait, qui piaillent là dès qu'il fait à peine jour, vraiment à peine jour.
Et alors là, tout à l'heure, tu parlais de ripisylve. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs et les auditrices ce que c'est qu'une ripisylve ?
Ripisylve, donc c'est des forêts naturelles qui sont au bord des fleuves, au bord des rivières. En souterrain, il y a de l'eau qui se propage, qu'on voit pas, mais qui est bien présente. Et donc, ça fait pousser des espèces très particulières, comme les saules, par exemple, qui poussent les pieds dans l'eau. Donc, c'est des forêts qui sont naturelles, qui sont assez fragiles, en fait, hein, parce qu'il suffit qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y en ait plus, ou des grandes coupes au bord des ripisylves. Alors, c'est des milieux naturels qui sont normalement protégés, en fait, parce qu'en même temps, ces arbres-là, ils se servent de l'eau des rivières qui se propagent un peu aux alentours. Le fait qu'il y ait des racines au bord de l'eau, ça maintient l'eau aussi. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. Les arbres maintiennent un peu l'eau et la quantité d'eau et les fait pousser. Donc c'est un milieu naturel. Il y a la rivière et à côté la ripisylve, les arbres. Et ça c'est un milieu compact en fait qu'il faut protéger tous les deux en fait.
Et donc dans ces milieux-là, évidemment, il y a une flore qui est très caractéristique. On peut parler des saules, des noisetiers, des espèces qui aiment bien l'eau. Et il y a aussi tout un tas d'animaux. Donc là, on parle des oiseaux, mais il y a aussi certainement des batraciens, des amphibiens.
Mais oui, alors là, il y en a... Moi, je ne connais pas beaucoup ici, mais il y a... Là, par contre, on a étudié... Il y a des libellules intéressantes, hein, comme les cordulégaphtères, là, et autres, qui sont sur des rivières particulières. Ce sont des grosses libellules. Puis aussi, alors, il y a une grosse bête qui est en train de revenir, c'est la loutre. Donc, c'est très difficile à voir. On sait qu'elle est présente jusqu'au lac de Bouvante. Donc, elle faut faire des passages. Hein. Mais alors, voilà, il faut qu'on la cherche. On a encore du travail pour la trouver des indices. Voilà, moi j'en ai déjà cherché, l'année dernière on n'a pas vraiment trouvé, mais en tout cas il y a eu déjà d'autres indices, donc voilà, elle est certainement présente. Et puis il pourrait y avoir le castor, mais alors le castor il est très loin d'ici, donc il est en contrebas, en aval de Saint-Jean pour l'instant, donc il n'est pas encore arrivé ici le castor, il mettra beaucoup plus longtemps que la loutre, elle peut aller très vite, on peut faire des kilomètres. Tranquille, à partir du moment où il y a des poissons à manger, elle peut s'installer. Alors, est-ce qu'elle est installée ici? En fait, on a commencé à la chercher, mais on ne sait pas, en fait, si elle est vraiment présente ici. Sur la Lyonne, en plus bas, c'est sûr. Sur la Bourne, c'est sûr qu'elle y est. Mais voilà, on lui court après, voilà.
Et elle court plus vite que vous.
Voilà.
Et donc là, juste à l'instant, on vient d'entendre un petit troglodyte mignon. Donc ça, c'est un tout petit oiseau qui aime bien les milieux forestiers assez denses. Est-ce que ça peut, à ton avis, ça nous renseigne un peu sur le milieu? Est-ce qu'on peut le trouver ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose de commun pour le Royan?
C'est commun, oui. Alors c'est un oiseau qui, que tout le monde a plus ou moins vu ou aperçu. C'est le seul oiseau qui a la queue dressée quand on le voit dans les fourrés. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très présent le troglodyte en plaine, même dans les jardins. Il est présent aussi en moyenne montagne, dans les forêts. Et puis voilà. Et puis il est présent aussi un peu plus haut, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Donc il est présent un peu partout en fait. Et il a un super chant. C'est pour ça qu'on l'entend beaucoup. Il a un chant. Il est petit. Il a un chant qui pète. Voilà. Il est pas grand comme une grive musicienne. Mais il chante presque aussi fort, et ça c'est très intéressant. Il est un chanteur, un beau chanteur de tous les milieux en fait, de la plaine jusqu'à montagne, jusque c'est le haut plateau. Il est bien présent aussi, il est présent partout, il s'adapte.
Et donc là, c'est par déduction, on les voit pas les oiseaux, on les entend principalement pour les reconnaître. Comment est-ce que toi tu fais pour reconnaître et te souvenir des chants d'oiseaux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a mis du temps à imprimer? Est-ce que tu as eu des méthodes? Comment t'as fait?
Ben moi oui, ça fait quelques années, ça fait très longtemps en fait que je suis tombé dedans. Après non, ben j'ai travaillé. Au départ, c'était quand même avec les cassettes. Après ça a été les CD, voilà. Maintenant sur internet, il y a tout et c'est très bien. Ben il faut travailler l'audition Il y a plusieurs systèmes. Le tout, c'est de, quand on fait des sorties qu'on connaît pas, eh bien, quand on revient après, eh bien, il faut chercher. Voilà, il faut chercher sur Internet, sur les CD pour essayer de reconnaître l'oiseau. Après, en même temps, il faut faire aussi des sorties avec des gens qui savent. Et puis, il faut du temps. Il faut pas te presser parce que voilà. Et après, c'est comme dans toute activité, on est plus ou moins doué. Voilà, il y en a qui sont doués, qui retiennent très vite. Voilà, moi, je suis pas très doué, mais j'ai quand même pas mal travaillé. Puis ça fait quand même très longtemps que je suis un peu là-dedans. Et après, à un moment, moi, ça me prenait la tête parce que des oiseaux, on entend toute l'année. Et donc, à chaque fois, je disais, mais qu'est-ce que c'est ça, voilà. Et puis, petit à petit, quand, de fait de les reconnaître de manière automatique, ben, maintenant, ça va, quoi. Mais oui, ben, c'est du boulot. Et puis, on peut très bien être tombé sous le charme d'un chant sans savoir qui c'est. Voilà, l'essentiel, c'est d'être dedans et d'écouter. Et puis, de prendre plaisir à les entendre chanter, en fait. Voilà, on n'est pas obligé de tout connaître.
C'est un super mot de la fin.
Thank you.